Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée aux collections, aux collectionneurs et à leur histoire. Pour ce dernier volet, nous allons plonger dans le monde antique. Qu'étaient donc les collections en Égypte, en Grèce ou encore à Rome ? Cette dernière émission de notre série conçue avec Cyril Niattar, nous allons nous demander comment les antiquaires de l'Antiquité ont choisi les objets du passé qu'ils voulaient conserver et également transmettre à leurs successeurs. Nous le ferons en compagnie d'Alain Schnapp, il est archéologue, historien d'archéologie et des ruines, avec Evelyne Prioux, elle est chargée de recherche au CNRS, à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et avec Yann Potin, il est professeur associé à l'Université de Paris 13 en histoire du droit et chargé d'études documentaires aux archives nationales. Bonjour, c'est Cyril Niattar.
Bonjour.
Bonjour Yann Potin.
Bonjour.
Bonjour à vous Evelyne Prioux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous Alain Schnapp. On vous avait entendu il y a quelques temps dans la Fabrique de l'Histoire, dans une émission consacrée à l'histoire des ruines. C'est ce sur quoi vous travaillez ces temps-ci, c'est cela ?
Voilà, absolument.
Et vous allez bientôt le publier, ce livre sur
J'espère,
l'histoire des
ruines ? J'espère, oui. À la fin 2015 ou au début 2016. Si.
Alors vous avez donné une série de conférences au Louvre sur ce thème et nous avons peut-être commencé avec vous parce que chronologiquement, pourrait-on dire, vous êtes celui qui plongeait le plus loin dans cette histoire de l'Antiquité, puisque vous êtes intéressé à la fois à la Mésopotamie, à l'Égypte, à la Grèce antique et évidemment à Rome et à l'Empire romain, pour voir comment eh bien, ceux qui s'intéressaient au passé dans ces périodes-là eh bien, avaient conservé, gardé, chouchouté, pourrait-on dire, certaines pièces d'un héritage plus lointain et les avaient gardées par-devers eux. Cette obsession de la collection, vous la trouvez un peu partout dans cette Antiquité, Alain Schnapp ?
Oui, je crois que Christophe Pomian, qui est peut-être l'homme qui a le mieux défini ce qu'était la collection au XXe siècle, au XXIe siècle, il suggère que la collection, elle est une fonction partagée par toute l'humanité.
Mmh. Et vous la trouvez même en Chine, cette collection ?
Nous la trouvons en Chine, nous la trouvons dans des pays, même dans des civilisations qui sont plus des civilisations immatérielles, comme les chasseurs-cueilleurs. Mmh. Il y a des objets qu'on se transmet, et la fonction chamanique, elle n'existe que par la capacité qu'a le chaman à intercéder entre le présent et le passé, ou à proposer des réflexions originales sur le rêve, sur la mythologie qui accompagne la performance des rites. Donc, la collection, elle commence avec le fait, comme le dit Pomian, qu'on met de côté un certain nombre de choses, mm-hmm. qu'il appelle sémiophores, des objets signifiants, qu'on retire du commerce classique des objets, de la vie quotidienne, et on les idéalise en quelque sorte, on les transcende
en les dotant d'une
Personnalité, je dirais, morale ou chronologique ou esthétique qui permettent à la collection de s'énoncer.
C'est
vrai, Niattar. Vous expliquez à Alain Schnapp, voilà, qu'il faut extraire ces objets pour les détruire et en même temps, à partir de là, les reconstruire. Et donc, évidemment, les accompagner d'un discours qui les légitimeront et dont on pourra faire usage, finalement, dans toutes les sociétés. Enfin,
oui, il y a deux dimensions. L'activité consciente du collectionneur ne détruit pas. Mmh. Elle extrait.
Voilà.
Elle prend un objet qui est...
Elle transforme, plutôt.
Voilà, ouais. Voilà le pot à tabac de votre grand-père. Et vous le mettez à côté et vous en faites un objet qu'on va comparer à d'autres. Donc ça, c'est cette espèce de détournement qu'a très bien illustré et analysé Pomian. L'autre stratégie consiste à chercher des témoignages directs ou indirects du passé en excavant le sol ou en recueillant des objets transmis par un lignage ou une tradition. Et donc, si on cherche, alors, c'est une manie d'historien qui a ses qualités et ses défauts, de dire quelle est l'origine de la collection. Eh bien, le roi Gourand, dans un livre célèbre, démontre que dans une des grottes d'Arcy-sur-Cure, mm-hmm. on trouve un certain nombre d'objets qui sont ce ne sont pas des objets en tant que tels, parce que ce sont des fossiles, mm-hmm. des fossiles d'herbacées, des fossiles d'animaux du quaternaire, qui ont été mis en place, enfin qui ont été laissés dans une grotte ensemble.
Donc
le roi Gouran dit, c'est peut-être la toute première collection du monde.
Alors c'est intéressant parce que vous savez peut-être que dans le dernier numéro des Temps modernes, le sociologue Luc Boltanski et Arnaud Esquer font un grand article sur la collection aujourd'hui comme symbole d'un capitalisme triomphant, et ils insistent justement sur l'actualité de cette notion de collection, en particulier des collections d'art contemporain, la spéculation autour. Et ils insistent aussi sur cette question qui est, qu'est-ce que c'est que de mettre en valeur des objets du passé, comment les met-on en valeur? Vous, quand vous vous plongez justement dans chez ces antiquaires de l'Antiquité, Alain Schnapp, comment mettent-ils en valeur justement ces objets, soit récupérés dans le sol, soit transmis par les générations passées qu'ils conservent? Ils le font comment? C'est des petits musées personnels? Comment
découvre-t-on? On a du mal à reconstituer ça, mais on a évidemment des stratégies de mise en avant, qui attire l'attention sur les objets. La première de ces stratégies consiste souvent à les doter d'une étiquette, tout simplement.
Mmh. Un petit cartel.
Trouvé dans tel endroit par un tel. Le cartel le plus ancien que je connaisse, ça date du Nouvel Empire égyptien, et par un certain Tchanéfer, qui dit, il ramasse un objet étrange, qui est un oursin fossile qui a plusieurs millions d'années, et il écrit, trouvé dans la carrière de Sovdoua par le prêtre Tchanéfer.
Ça, c'est la première. C'est le premier cartel.
C'est le premier. Alors, est-ce qu'on va dire de lui que c'est un collectionneur? Vous savez que la collection, il faut un seuil de quantité aussi. Ouais. Si un objet n'est pas une collection, c'est limite.
C'est alors, le début d'une collection.
Alors, est-ce que c'est comme en mathématiques et on commence avec le chiffre 3? Je n'en sais rien. Oui, il y a un problème d'accumulation. Mais en tout cas, ce prêtre, connu par ailleurs, il a été le premier à mettre son nom. Ça, c'est en Égypte, mais en Mésopotamie, les scribes, le deuxième millénaire, commence à recueillir des inscriptions anciennes et à les commenter. Et le temps passant, comme le sumérien est quand même une langue difficile, ou l'acadien ancien a des graphies complexes, il y a des traductions.
Donc, formidable.
On a des textes en quelque sorte bilingues qui enregistrent une inscription ancienne.
Des sortes de pierres de Rosette qui permettent
de l'autre côté, le commentaire et le scribe qui dit « Je l'ai ramassé dans le temple de l'Ebabar de Larsa sur le pilier numéro 3 dans la colonne de gauche. »
Et comment on comprend alors l'interprétation qui sont données ensuite à ces objets ou leur usage justement à l'Einstein? C'est-à-dire, on comprend bien qu'il y a l'idée, on va collectionner pour qu'il y ait une idée de continuité, de lien avec le passé, mais en même temps, cette continuité, elle ne suffit pas. Il faut aussi montrer la rupture, c'est-à-dire faire usage de ces objets, enfin se les approprier pour en tirer parti d'une certaine manière.
Mais de toute façon, dès qu'un objet...
Est-ce qu'on a des écrits,
C'est cohérent avec la théorie de Pomian. Dès qu'un objet est sorti de son contexte, si on le sort, c'est pour en faire quelque chose. Ce quelque chose n'est pas toujours limpide. Il le devient, nous en parlerons dans un...
Avec Evène Priou.
Hellénistique et romaine, on commence à voir un peu les stratégies.
C'est vrai que ceux qui collectionnent des petits cailloux ramassés sur les plages ou des morceaux de sable comme on en connaît aujourd'hui, puisés sur toutes les plages du monde, effectivement, quand on les retrouvera chez eux, on aura du mal à savoir exactement pourquoi ils ont fait cela, par exemple.
Voilà, donc on n'a pas toujours les objets, mais on peut dire qu'il y a deux grandes lignes. Il y a une première ligne qui est la ligne de la continuité dynastique ou politique. C'est-à-dire que pour être un vrai souverain, il faut contrôler le présent, ce qui suppose une relation au passé tout à fait particulière et une projection dans le futur.
Il faut choisir ses ancêtres, d'une certaine façon.
Donc, chez les rois mésopotamiens ou égyptiens, l'idée de s'illustrer dans les grandes séries des grands souverains est fondamental. Chez les Égyptiens, avec une connotation plus concurrentielle. Parce que le pharaon dit, j'ai fait cela parce qu'aucun de mes prédécesseurs ne l'avait fait. Et moi, j'ai mis de la pierre dans ce temple, là où il n'y avait que de la terre cuite. Chez les Mésopotamiens, l'effet de souffle du passé est plus fort, parce qu'en Mésopotamie, le futur... Et derrière vous, et le passé est devant vous.
Et si on arrive à la jointure avec le travail d'Evelyne Priou qu'on va entendre tout de suite, et qui travaille sur le monde hellénistique et le monde romain, les Grecs que vous connaissez si bien, puisque vous avez beaucoup fouillé en Grèce, en l'occurrence, Alain Schnapp, c'est votre terrain de prédilection au tout départ. ces Grecs-là, ils procèdent à des collections. On connaît des collections de Grecs.
On connaît des collections essentiellement dans les temples. C'est-à-dire, ce qui caractérise les cités grecques archaïques et classiques, c'est la conscience de l'autonomie de la cité et la volonté de faire respecter cette autonomie dans tous les domaines, y compris dans le passé. Donc, les temples vont être les dépositaires d'objets votifs offerts par des cités, offerts, Eglise nous le dira tout à l'heure aussi, par des rois ou des hommes dans le futur très riches, qui vont consacrer à Delphes ou à Samos des objets rares. Et ces consécrations vont faire des temples le prototype du musée, non pas au sens que ce terme a
moderne,
au siècle, mais autant au sens où c'est là que l'on va entrer en contact avec les œuvres à travers l'aura de la divinité. Et donc c'est une dimension, ça, de la cité grecque indépendante qui va changer à l'époque hellénistique.
Bien sûr.
Et ça peut rejoindre ce que vous disiez de Boltanski, quand les différences de classe et les différences sociales deviennent si grandes que la figure du collectionneur privé apparaît.
Mais pour que ce soit efficace, juste à la Schnapp, il faut que ce soit visité, ces lieux, comment ça se passe, mise en valeur, exposée.
La Grèce est faite, toutes ces cités sont autonomes, mais elles revendiquent, les Jeux olympiques, etc., l'appartenance, je dirais, à une discipline de l'esprit et de la société qu'on appelle l'hellénisme. Donc, où se donnent à voir les Grecs? Dans les grands sanctuaires. À Olympie, en plus, ils organisent les Jeux. Mais à Délos, à Samos, à Delphes, tout le monde doit être passé par là, tout le monde qui compte. Et en passant par là, on voit des choses extraordinaires. Et Pausanias, on en parlera un moment, nous donne en mots ce spectacle du monde de l'Antiquité grecque.
Oui, parce que, Evelyne Priou, vous avez fait une thèse il y a quelque temps qui s'appelait « Le poète, l'artiste et le collectionneur, naissance d'un discours sur l'art dans l'épigramme hellénistique et romaine entre le 3e siècle avant notre ère et le 2e siècle après notre ère », donc à cheval justement sur l'avant et l'après de notre ère. Et vous y insistez beaucoup sur le fait que, comme le disait à l'instant Alain Schnapp, il y a forcément un discours avec ces collections. Ces collections n'existent pas sans le discours sur l'art qui va avec. C'est-à-dire qu'on trouve des poètes qui, les uns ou les autres, écrivent des épigrammes, écrivent des textes qui sont là pour, disons, justifier le choix de ces œuvres et dire pourquoi elles sont rassemblées ensemble, Evelyne Priou.
Oui, alors, tout à fait. Le seul problème, c'est qu'en général, on a des textes qui nous parlent de collections dont on ne sait pas si elles sont fictives
ou réelles.
Mais ces textes nous servent quand même à comprendre comment les anciens pensaient la collection, qu'est-ce qui motivait le fait de rassembler telle ou telle œuvre, de les confronter. Et là, on voit la diversité en fait des solutions choisies, c'est-à-dire que on va rapprocher des œuvres parce que ensemble elles permettent d'illustrer une idée politique, par exemple, ou on va les rapprocher parce que on est en train de réfléchir sur l'histoire de ces œuvres, sur leur place dans l'histoire de la sculpture grecque, par exemple, en rapprochant, sur le mode de la comparaison, qui est beaucoup pratiqué par les historiens de l'art, y compris aujourd'hui, en rapprochant, par exemple, une figure tenant une lance par Polyclète et une figure tenant une lance par Lysippe.
Faisant des sortes de séries, d'une certaine façon. Alors, qui sont ces collectionneurs de l'époque hellénistique? Donc, Alain Schnapp nous disait, dans la Grèce classique, on sait et on voit que ces collections sont plutôt des collections liées à des temples et à chacune des cités. Est-ce que l'on voit poindre à l'époque hellénistique ce qu'on pourrait qualifier de collections privées? Qui seraient les possesseurs de ces collections privées et comment s'établissent-elles, ces collections privées, Evelyne Priou?
Alors, donc, d'abord, le phénomène des collections dans les temples se poursuit parce qu'évidemment, continue d'y apporter des objets votifs. De les trier, de les classer, de produire de la part des antiquaires un discours dessus. Et parallèlement à cela, on va déjà voir dans les... alors ce qu'on connaît le mieux, mais toujours de manière très indirecte, c'est le cas des princes hellénistiques, des grands monarques, donc les Lagides à Alexandrie, les Attalides. Et on sait qu'eux font venir de l'ensemble du monde hellénophone, des poètes, des artistes, que le but, voilà, ça va être de rassembler dans un lieu des collections de livres.
Dans un lieu, c'est un palais, c'est quoi ?
Alors, dans le palais, d'une part, ça, on sait par exemple qu'il y avait une collection de tapisseries dans le palais d'Alexandrie. Enfin, Théocrite, le poète Théocrite nous en parle. Et aussi dans des bibliothèques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ornements de bibliothèques. Enfin, on va rassembler des statues dans des bibliothèques. Voilà. Et pour les collectionneurs, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer qu'on a des personnes qui ont un statut élevé, qui elle aussi amasse ses collections, mais on n'en sait pas grand-chose. On connaît mieux ce qui se passe dans le monde romain, de ce point de vue-là.
Ça ne veut pas dire qu'il y a une transformation complète de ce qui se passe dans le monde hellénistique au monde romain, c'est que la documentation nous manque parfois pour le monde hellénistique, par exemple. On ne sait pas très bien.
Elle nous manque en grande partie pour le monde hellénistique.
Oui. Et donc, puisque vous travaillez à cheval sur ce monde hellénistique et sur ce monde romain, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez perçu, conçu à partir de ces textes, de ces épigrammes, de ces textes nombreux ? Je crois qu'on en a trouvé de façon relativement récente un fameux papyrus du côté de Milan qui avait été abandonné dans une collection qu'on a redécouvert et à partir de là, on a pu retravailler sur en particulier ces questions des collections, c'est le papyrus de Posidipe de Pella, qui était donc un Macédonien du 3e siècle avant notre ère. Qu'est-ce qu'il dit, ce papyrus, qui nous éclaire sur cette notion de collection dans l'époque, à l'époque hellénistique, Evelyne Priou ?
Alors, Posidipe, donc il est Macédonien, vous l'avez dit, et il travaille durant le deuxième quart du 3e siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, et probablement, il vient, comme beaucoup d'autres poètes, justement, pour travailler pour le roi Ptolémée II. Et donc, ce papyrus, en fait, d'abord, c'était une surprise, le papyrus de Milan, parce qu'il contient 120, c'est les fragments de 120 poèmes, dont, finalement, la moitié pourrait être considérée comme des descriptions d'œuvres d'art ou d'objets votifs. Alors, il parle de tout, il parle de ce qu'on place dans les sanctuaires, il parle des ex voto, de ces statues qu'on peut dédier dans des sanctuaires, à la suite d'un naufrage, ou pour remercier Asclépios d'avoir guéri de la rougeole, ou je ne sais quoi. Et d'autre part, il constitue comme deux séries de textes qui sont pour l'un des descriptions de pierres, notamment d'intailles, de pierres gravées, de gemmes, et pour l'autre des descriptions de statues en bronze. Et alors, le plus probable, c'est que ce ne sont pas des collections réelles, parce qu'il nous dit très clairement que voilà, ces gemmes, elles sont réparties dans le monde grec. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des gemmes. Dans sa collection, il met aussi un gros rocher qui est sur le rivage en Eubée. Pour les statues, c'est probablement la même chose, c'est-à-dire qu'elles sont réparties dans le monde grec. Mais alors,
il en fait une collection en les rassemblant dans ses textes.
De manière imaginaire et avec l'idée de célébrer, en tout cas dans les gemmes, de célébrer le pouvoir lagide. Et en fait, il fait comme s'il offrait par son texte, qui est la description de ces gemmes, une collection à la reine Arsinoé II.
Est-ce que ça a quelque chose à voir ? Est-ce qu'on a connu plus tard, et on a avec nous un médiéviste en la personne de Yann Potin, vous avez travaillé sur le Moyen-Âge en particulier, pas simplement, mais voilà. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on a connu plus tard, à savoir les cabinets de curiosité, c'est-à-dire une façon de rassembler le monde en mots dans un même ouvrage qui est donc de posséder ce monde parce qu'on rassemble dans des mêmes pages, sur un même manuscrit, sur un même papyrus, on rassemble justement tous ces objets remarquables qui disent quelque chose du pouvoir qu'on en a, qu'on a sur eux.
Alors, je pense vraiment qu'on peut faire de ce point de vue-là une histoire
parallèle,
qui couvre le long temps, parce que effectivement, la collection est intimement liée dans ces cas précis, hein, à la célébration du pouvoir. Et ce qu'on voit aussi à Rome avec Pline l'Ancien, qui justement va se mettre à faire d'abord dans un ouvrage d'histoire naturelle, hein, qui fonctionne comme un inventaire du monde. Mmh. Et à la fin de cet ouvrage d'histoire naturelle, il rassemble une série de chapitres sur... qui en fait traite de l'histoire de l'art, parce qu'il s'intéresse aux terres, aux métaux et donc à ce qui sert pour faire des œuvres d'art. Et à ce moment-là, il dit, tout cela s'est rassemblé à Rome. Et en fait, c'est une manière de célébrer le pouvoir des empereurs flaviens qui ont su rassembler autour d'eux. Mmh. Ces collections.
Comme Rodolphe de Habsbourg un peu plus tard, Vienne. Du côté de Vienne. Yann Potin, vous n'avez pas encore pris la parole.
Non, mais en fait, je l'écoute avec grande attention, Evelyne Priou, parce que Erlin Schnapp aussi, mais parce que je redécouvre en fait quelque chose qui m'avait frappé depuis toujours, c'est le lien fondamental entre l'acte de rassemblement, pourtant c'est évident, ce qu'on l'appelle collection ou non, et la spatialisation. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'on a besoin de ce... La collection est une façon de s'orienter dans l'espace. Et j'avais vraiment une question très concrète à vous poser. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre ce genre, enfin ces genres littéraires qui commentent et dans lequel on peut trouver plein de prolongements, on en reparlera dans la tradition des lapidaires, et même on peut considérer qu'une partie de la géographie médiévale consiste à rêver sur les reliques, en fait, à rêver sur les trésors de reliques, on en reparlera peut-être. Est-ce qu'il y a un lien avec le genre des sept merveilles du monde ? Puisqu'en fait, au fond, ce que vous dites là, à l'échelle du monde lagide, au fond, on l'a progressivement ensuite, et même ça continue d'une certaine façon presque avec comme un genre supranational avec le patrimoine de l'humanité UNESCO. Mais là, c'est évidemment une toute autre échelle. Cette idée qu'au fond, l'inventaire, et là je fais référence plutôt à des travaux, en tout cas un très bel essai de Michel Melot qui s'appelle Mirabilia, qui est sorti récemment sur justement la culture de l'inventaire ou le genre même de l'inventaire. Est-ce qu'on... puisqu'on sait que le genre des sept merveilles du monde, qui ont changé en plus, il y a une histoire différente des sept merveilles du monde, comment ils s'articulent avec ce genre de l'Antiquité sur les collections ?
Alors, à ma connaissance, mais encore une fois, on a perdu plein de textes, la première description des sept merveilles du monde est dans une épigramme.
Voilà, d'accord.
La plus ancienne.
C'est ça.
Et Alain Schnapp, sur cette notion justement de rassemblement des beautés du monde, d'une certaine façon.
Elle est liée au vieux concept mésopotamien du paradisos, hein, le paradis. Le paradis, c'est tout ce qui peut être collectionné de la nature et de la culture. Et le roi est grand quand il est capable d'offrir ce rassemblement extraordinaire. Il y a un très beau livre de Sylvie Lakenbacher sur ce thème dans le monde mésopotamien qui s'appelle « Le palais sans rival ».
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et à 9h30 aujourd'hui, quatrième volet donc de notre série sur les collections et les collectionneurs, avec Séverine Yattard qui a préparé toute cette semaine avec nous, avec Yann Potin, avec Evelyne Priou et avec vous, Alain Schlapp. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde antique ? Qu'est-ce qui change avec l'époque romaine, Evelyne Priou ? Puisque vous nous avez décrit cette époque hellénistique, vous nous avez dit comment il y avait à la fois des collections qui continuaient ce que nous avait dit auparavant Alain Schnapp dans les temples, dans les endroits de sanctuaires en particulier, mais aussi des collections qui étaient liées au pouvoir en place, que ça soit le pouvoir lagide ou dans d'autres régions de ce monde hellénistique. Est-ce que l'intrusion un peu en force, pourrait-on dire, de Rome par l'intermédiaire de la bataille d'Actium, la défaite de Marc-Antoine, la défaite de Cléopâtre, et donc l'arrivée de ces Romains dans cet espace géographique de l'Est de la Méditerranée, change quelque chose, vous qui avez travaillé sur l'avant et sur l'après, Evelyne Priou ?
Alors, tout à fait. Déjà, dès que Rome sort de ses frontières, commence à conquérir l'Étrurie, hein, on sait que les Romains rapportent des statues à Rome, notamment
étrusques.
Voilà, des statues étrusques. Hein. On a déjà un exemple à Veii au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ils le font d'abord avec l'idée de se rendre, enfin de s'approprier la faveur du dieu, quoi.
Oui,
enfin,
le pouvoir.
Les dieux étrusques soient avec eux aussi. Mais de fait, vont se constituer ainsi sur le champ de Mars, mais aussi dans des collections particulières, parce que certains généraux s'approprient une partie du butin, vont se constituer donc des collections particulières. Et on a aussi tout un public de riches romains hein, qui, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, deviennent des commanditaires et véritablement des consommateurs d'art grec, ce qui a aussi une influence sur la manière dont travaillent les artistes en Grèce. Donc on va avoir des ateliers qui vont se spécialiser dans le fait
de l'art grec pour Romain,
de copier
quoi.
De l'art grec.
Un peu comme les faux impressionnistes chinois qui nous font des faux tableaux impressionnistes pour nous aujourd'hui.
Oui, avec une dimension créative aussi, hein, parce que
oui, bien sûr, ça n'est pas que de la copie,
voilà,
bien sûr.
Ce n'est pas que de la copie. Et donc, voilà, ça modifie hein, la manière dont l'art grec se diffuse. Peu à peu, cela va aussi donner la possibilité à beaucoup de propriétaires romains riches et moins riches d'avoir de l'art grec dans leur demeure. Et donc, on a aussi des toutes petites collections de statues dans des maisons très modestes, en fait.
Ce qui nous vaut, Alain Schnapp, de trouver, en tant qu'archéologue, vous avez plutôt fouillé le sol et vous n'êtes pas descendu avec un scaphandre au fond de la mer, mais de trouver au fond des mers des statues grecques du 5e siècle ou du 4e siècle, parce qu'évidemment, s'accompagne de cette envie de s'approprier l'héritage grec, eh bien, un immense transport des œuvres de l'est de la Méditerranée à l'ouest de la Méditerranée, en particulier sous César et sous Auguste.
Absolument, cette tendance à s'approprier les dieux des autres fait partie, je dirais, de la culture de toute l'Antiquité orientale et occidentale. Ça commence avec la déportation des dieux d'Akkad ou des dieux d'Assyrie vers le lointain Iran et leur rapatriement à certains moments. Donc, la victoire, c'est de contrôler les dieux des autres. On l'a bien vu, comme les dieux étrusques qui entrent dans le patrimoine romain, mais aussi avec matériellement la figure. Donc, la figure, ce sont toutes ces œuvres qu'Evelyne Priou vient de décrire. Et évidemment, si on veut envoyer cela sur une longue distance, eh bien, dans cette mer contrôlée par les Romains, on charge des bateaux. Et ça,
c'est comme ça qu'on a trouvé l'épave d'Anticythère, par exemple.
Et d'autres du même genre. Donc, l'archéologie sous-marine est vraiment une province ouverte pour reconstituer ces échanges.
Justement, vous étiez parti de cette idée, Emmanuel Laurentin. Mm-hmm. Cette épave d'Anticythère qui a été retrouvée, sans doute un pillage, un navire donc, qui
un énorme coule, navire, voilà, 50 mètres de long, dit-on, voilà, aujourd'hui.
En 86 avant Jésus-Christ. Mais donc là, vous dites, Alain Schnapp, ce sont les dieux qu'on veut se réapproprier, des figures...
Pas dans le cas d'Anticythère.
Non. Alors voilà, dans le cas d'Anticythère, voilà, comme c'est plus tardif...
C'est ce qu'Evelyne Priou vient de nous expliquer. C'est-à-dire que...
C'est aussi un savoir-faire artistique, technologique, qu'on veut
Alain Schnapp.
Ce phénomène qui était lié en quelque sorte aux cités passe à la fin de l'époque hellénistique à des personnes privées ou semi-privées à travers une diffusion des objets et une diffusion de l'art de collectionner. Parce que c'est ça qui est important aussi. Si vous êtes un collectionneur à partir de ce moment-là,
on peut déjà parler de ça.
Donc cette distinction au sens que Bourdieu donne au terme, elle est inséparable de l'acte de collectionner. Donc collectionner, comme en latin, comme en grec, vous avez mettre ensemble. Hein, mm-hmm. Collectio, syllogé, dans ces deux cas. Et vous n'avez pas ça dans l'allemand Sammlung, par exemple.
Mm-hmm. Ça veut donc dire, Evelyne Priou, qu'il faut... Il y a d'abord un marché de ces antiquités qui s'ouvrent d'une certaine façon, des centaines de statues grecques, de bronzes. C'est pour ça qu'on retrouve ces bronzes, parce que sinon, ils auraient été fondus au cours des temps et on aurait récupéré le métal pour faire autre chose. Et là, ils sont tombés au fond de la mer, on n'a pas pu le faire auparavant. Donc, il y a des centaines d'œuvres d'art qui, comme ça, migrent d'un côté à l'autre de la Méditerranée et qui créent un véritable marché de l'art, pourrait-on dire, de l'art ancien.
Ce marché, hein, je ne peux pas vous le décrire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on sait, c'est que les collectionneurs, dont déjà sont ceux qu'on connaît le mieux, sont des personnes très avisées, très cultivées, et font intervenir
leurs
amis.
Qui sont ceux qu'on connaît bien, par exemple.
Cicéron, par exemple.
Pas mal.
Voilà. Et on sait que pour, voilà, pour orner ses villas, il fait intervenir son ami Atticus, qu'il considère comme un fin amateur d'art grec et un fin connaisseur d'art grec.
Et en même temps, il discute avec...
Et il lui demande
avec...
de l'aider à choisir telle ou telle statue.
Mais ça va, on parlait tout à l'heure du discours, ça va aussi avec le discours sur la philosophie grecque, puisqu'on sait combien, dans ses écrits, Cicéron rapporte des discussions qui sont d'ailleurs inventées avec Varron pour évoquer la faveur de la philosophie grecque, l'importance de la philosophie grecque dans ce monde romain. Donc on importe à la fois la pensée d'Aristote, la pensée de Platon et de Socrate, et on importe aussi les objets qui vont avec, d'une certaine façon. On prend tout de
le matériel et l'immatériel, oui. D'une certaine manière.
C'est aussi un transfert, sinon de divinité, du moins de spiritualité, enfin en tout cas, c'est quand même un motif équivalent, puisqu'après tout, les translatio studi, ou s'accompagnent de translatio, en général accompagne les translatio imperii du pouvoir, et effectivement il y a des objets ou des livres, je veux dire, ça fait écho à toutes les transferts culturels dans l'histoire.
On voit bien, Evelyne Priou, en vous lisant et en lisant d'autres articles sur ce sujet, que par exemple, eh bien, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des Grecs qui se spécialisaient en Grèce sur la statuaire pour Romains. Mais il y a aussi des Grecs qui s'installent à Rome pour faire des statues à la manière grecque, voire recréer une sorte de style de la Grèce classique du 5e siècle avant notre ère, en plein 1er siècle avant, puisque c'est par exemple ce qui se passe pour César. César a auprès de lui un sculpteur, un bronzier qui va lui faire des bronzes pour le forum de César au moment où il prend le pouvoir.
Oui, et alors avec une certaine complexité, parce que l'un des exemples qu'on connaît bien, c'est l'école ce qu'on appelle l'école de Pasitelès, mm-hmm. qui est un sculpteur du 1er siècle.
Et d'Arcésilaos, c'est ça, ils sont deux, ils sont tous trois.
Alors oui, mais ils ne travaillent pas
ensemble.
Enfin, ils travaillent pour les mêmes personnes, mais a priori pas ensemble. Et Pasitelès, lui, en fait, fait des innovations techniques, comme l'idée d'utiliser des modèles en terre cuite également pour la statuaire en marbre, ce qui ne se faisait pas. Ce qui lui permet en fait de créer des images complètement nouvelles, en mettant par exemple un torse de Polyclète avec tête de Phidias, et le tout dans une sculpture qui va former une unité. Voilà, ça c'est le grand sculpteur de César.
Comment on appelle ça, vous qui avez dirigé l'Institut national d'histoire de l'art, on appelle ça, c'est de l'art éclectique, on appelle ça quand on
voit... l'hybridation de l'art.
Voilà, on va chercher Alain Schnapp.
Le plus grand des créateurs contemporains dans ce genre, ça a été certainement Rodin, avec son jeu sur les objets archéologiques qu'il transforme par sa sculpture. Donc, ce que nous décrit la Evelyne, c'est une stratégie qui est développée en ce temps-là, mais dont s'en sont encore les héritiers. Mm. C'est ça qui est fascinant dans le phénomène de la collection, je dirais, c'est la transcularité, transculturelle et transséculaire. Mm.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au bout du compte. Voilà. C'est toujours une accumulation, comme pour l'archéologie, des couches sédimentaires qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors, parmi ces couches sédimentaires, il y a effectivement cette statue équestre de César qui est créée sur le forum, sur le modèle de la statue d'Alexandre qui est au cœur d'Alexandrie. Et on se dit à cette fois-là, mais on voit bien ce que nous disait tout à l'heure Alain Schnapp, Evelyne Priou, c'est-à-dire c'est la translatio imperii, là, c'est-à-dire qu'on veut récupérer à Rome l'héritage d'Alexandre et d'Alexandrie, Evelyne Priou.
Oui, et c'est quelque chose qui commence bien avant César, le fait d'imiter Alexandre. Alors on a un exemple très très fameux au IIe siècle avant, en fait, où ça va être la première fois qu'on va créer un écrin statuaire pour un ensemble de... un écrin architectural pour un ensemble de statues ramenées de Grèce, c'est Métellus, qui fait construire tout un portique pour accueillir 34 statues en bronze qui représentent Alexandre et ses généraux morts dans la bataille. Donc il y a l'état-major d'Alexandre et Alexandre, 34 statues équestres qui sont amenées de Dion en Macédoine, et on leur crée un écrin à Rome.
Et donc, il faut faire accéder Rome, d'une certaine façon, au prestige d'Alexandre. C'est cela, il y a quelque chose qui transparaît de cette importance de la figure d'Alexandre dans l'imaginaire romain de l'époque, que ce soit le IIe siècle avant notre ère ou le premier. On écoute un extrait de Jules Massenet, le fameux Cléopâtre de Jules Massenet, baigne accepte ce siname. Un extrait du Cléopâtre de Jules Massenet. Vous avez dirigé récemment une thèse, Alain Schnapp, c'était au tout début de cette année, de Marie-Thérèse Curcio, qui marchait un peu sur les brisées de ce que nous dit depuis tout à l'heure Evelyne Prioux, c'est-à-dire sur, disons, l'originalité ou l'imitation dans l'art romain, justement, de cet art grec qui est si valorisé, si mis en avant pendant la période, justement, au tournant de notre ère, Alain Schnapp.
Oui, c'est un travail qui a été initié par mon collègue de Rome, Marcello Barbanera, et qui, avec Madame Curcio, s'est intéressé dans la tradition des études sur la réception à la définition compliquée de la relation entre le modèle et son imitation dans le monde romain. Et toute cette copie forchon qui est fondamentale pour comprendre notre héritage de la sculpture classique. Et Madame Curcio, dont j'espère que le livre va paraître bientôt, elle apporte là un éclairage nouveau sur les différentes façons de s'approprier l'héritage grec et de créer, je dirais, une identité singulière de l'art romain.
Evelyne Prioux, vous nous parliez au début de cette discussion de ces discours qui accompagnaient les collections et les œuvres d'art, en particulier à l'époque hellénistique. Est-ce que ces discours changent? Est-ce que cela continue? Est-ce qu'on continue à faire une sorte de collection de mots, collection de phrases, collection d'épigrammes, mettons au 1er siècle avant, au 1er siècle après, bien loin de l'époque hellénistique, pour pouvoir accompagner justement ces œuvres d'art et ces collections antiques?
Alors, en fait, on commence à réaliser, mais on commence tout juste à réaliser que Posidipe, donc, qui pour nous est revenu à l'existence il y a 10 ans.
Oui, c'est ça, parce qu'on a retrouvé ses écrits.
Voilà, a influencé un certain nombre d'auteurs grecs et latins qui l'ont lu, qui l'ont imité et qui ont eu l'idée de faire la même chose. Et donc, on a ce même processus de description fictive ou réelle, dans certains cas, à Rome. Alors, avec des auteurs grecs qui font, eux aussi, des collections de textes sur les gemmes, mm-hmm. mais qu'on n'a que de manière fragmentaire. Mm-hmm. Et puis, peut-être des exemples, mais c'est à titre d'hypothèse, chez Martial, d'autres auteurs qui décrivent dans leurs poèmes des parcours dans la ville de Rome.
Ça, c'est intéressant. Ça. C'est Horace en particulier, on peut dire que...
Alors, c'est une hypothèse, oui. Ouais.
C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce poème serait une sorte de cheminement dans les beautés de la nouvelle ville de Rome, donc au tout début de l'Empire, en l'occurrence.
Oui, c'est tout à fait envisageable chez un certain nombre d'auteurs. Alors, j'ai un collègue, donc Juan Gomez, qui a voulu le voir chez Horace. Moi, je crois avoir un exemple chez Martial, où en fait, il est en train de décrire les collections d'un temple rénové par Domitien. Tout cela n'est jamais dit de manière très explicite. Et les seuls exemples explicites qu'on a de description d'une collection ont quelque chose d'extraordinairement fictif et sont des jeux rhétoriques. Enfin, on pense à Philostrate, à la description de la galerie de tableaux et ce type de choses.
Séverine Yatard.
Et au-delà du discours, est-ce qu'on peut percevoir alors, une sorte d'organisation ou des organisateurs de ces collections, justement. Enfin, des espaces, alors peut-être pas version moderne, évidemment, mais où ça se passe dans les ateliers d'artistes, enfin, je pense à quelqu'un comme Mécène aussi, qui joue un rôle comme ça, des personnes qui sont chargées de voilà, recueillir pour ensuite transmettre.
Promouvoir.
Promouvoir. Mmh. Est-ce qu'on a des...
Alors, Priot.
Oui, on a aussi des informations donc sur l'organisation, sur la disposition spatiale. Alors dans de très très rares cas, on a ce qu'on appelle dans l'art romain, on peut avoir même des pinacothèques fictives, enfin des représentations de tableaux au sein des fresques. Et là, on peut apprécier la manière dont elles sont disposées dans l'espace, dont les tableaux se répondent l'un à l'autre. Alors avec des phénomènes soit de relations thématiques entre les mythes, quand ce sont des images mythologiques, on va comparer tel mythe et tel mythe. Des phénomènes aussi où le peintre a clairement modifié un schéma iconographique qu'il connaissait pour justement qu'il intègre un ensemble visuel cohérent. Donc on va s'arranger pour que tel tableau rappelle la composition de tel autre tableau qui est
juste
à côté.
Et cela, on s'en doute, on le perçoit, on l'imagine, ou on a quelques textes qui nous laissent entrevoir justement ce travail de citation, pourrait-on dire, de lien. On parlait tout à l'heure avec Alain Schnapp de la question du lien, de comment on se relie avec une histoire plus longue, etc.
Alors,
qu'est-ce qu'on a pour nous dire que c'est cela, Evelyne Priou?
On a des textes, je pense à un exemple très fameux chez Lucien, dans la description d'une salle où il y a des tableaux. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est non pas décrire les tableaux, mais chercher les relations de l'un à l'autre. Dire, ah ben là, on retrouve telle figure qu'on a déjà vue ici. Ici, on a un tableau ancien. Et c'était la même chose de l'autre côté de la salle. Ici, on a un tableau qui nous présente une histoire de meurtre ou d'infanticide. Voilà, donc on sait que ça fonctionnait comme ça.
Yann Potin.
Oui.
Non, je vous vois écouter, prendre des notes.
Ah oui, j'écoute avec grande attention parce que je pense qu'en effet, il y a une matrice là de beaucoup de choses. On disait tout à l'heure l'articulation entre les objets et les discours. Je pense que, vous voyez, Alain Schnapp parlait de l'adab dans la tradition, on va dire, de la poésie arabe. Il faut une grande partie finalement de la poésie sacrée dans le monde occidental où, on va dire, Le Haut Moyen-Âge est une rêverie sur les gemmes aussi, bien entendu, et pas n'importe quelle gemme, hein, puisque l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse se termine quand même par les 12 pierres précieuses du paradis terrestre, qui sont les portes de Jérusalem, et en fait, tous les reliquaires, en quelque sorte, vont reprendre ensuite ce code de couleur qui est en fait la base de la quasiment du code couleur de l'Occident du rubis à l'émeraude hein, je veux dire etc. Et au fond Marbotte de Rennes par exemple qui est le moment où le lapidaire au XIe siècle se fixe comme genre va être la principale ressource de la littérature des trésors et des merveilles de l'Occident médiéval et qui va donner beaucoup plus tard. Il ne s'agit pas de faire un schéma finaliste ou évolutionniste, mais c'est vrai que quand même, étant donné que ces mirabilia, ces gemmes, qu'elles soient naturelles ou artefactuelles, y compris les intailles romaines, dont on sait qu'elles sont ensuite transmises à l'Occident dans les trésors, comme les, au-dessus même des reliques. Hein, regard, voyez le camée d'Auguste à la Sainte-Chapelle, qui est justement la seule chose qu'on garde du grand reliquaire de la Passion. On n'a pas gardé le reliquaire, mais on a gardé le camée d'Auguste. Donc effectivement, ces gemmes, qu'elles soient naturelles ou au contraire fabriquées, vont évidemment être un des grands, au 14e, 15e siècle, un des premiers grandes sources de réflexion pour commencer à faire la part entre la création divine, la création humaine, et au-delà, Antoine Schnapper et bien d'autres ont tenté de voir l'émergence finalement de la pensée naturaliste à travers, et Alain Schnapp, dans son livre La conquête du passé, montre très bien comment les collections pontificales, dès le 15e siècle et même avant, sont une des sources de réflexion sur la naissance de l'archéologie, y compris d'ailleurs préhistorique, hein, avec Mercati au XVIe siècle et le cabinet du pape.
Alain Schnapp, justement, sur cette transmission postérieure à cette période antique, à la fois de ces pratiques, est-ce qu'on sait si elles se sont transmises? Est-ce qu'il y a eu interruption? Est-ce qu'elles se sont réinventées de façon différente? Puisque là, on a passé une dizaine de siècles en sautant au 15e siècle avec Yann Potin. Comment tout cela a-t-il pu se transmettre? Est-ce que ça correspondrait? Vous avez beaucoup travaillé en anthropologie aussi. Est-ce que ça correspondrait à quelque chose anthropologiquement que se transmettent les sociétés, quelles que soient les conditions sociales d'émergence de telle ou telle phénomène à la Schnapp?
Oui, il y a à la fois une continuité, une réorganisation. Alors évidemment, la chute de l'Empire romain ne s'est pas faite en un jour, hein, comme disait Gibbon, et donc il y a beaucoup de choses qui ont cuit dans la marmite culturelle. Mm-hmm. Mais si vous prenez par exemple les variétés de Cassiodore, qui est au service de Théodoric, donc le premier barbare, entre guillemets, à administrer ce qui reste de l'Empire romain, dans les variétés, il y a une nouvelle théorie du patrimoine. Mmh. Jusqu'à présent, on avait la théorie de l'ornatus de la ville, de la cosmé, hein, de la splendeur de la ville. Maintenant, la ville est à moitié détruite. Il n'y a plus de ruines que de
bâtiments debout.
Alors, il faut trouver une stratégie pour concilier l'ancien et le nouveau. Et vous avez dans les textes et les rescrits impériaux toute une stratégie, enfin, c'est le premier système en Europe de la protection du patrimoine. Son efficacité, on peut en discuter, mais c'est l'idée que le poids, l'ombre des ruines, l'ombre du passé, et la splendeur du passé est telle que pour s'accommoder au présent, il faut en quelque sorte trouver un équilibre. Et ça, ça commence avec ces textes merveilleux, et ça va durer, enfin, avec les à l'époque mérovingienne, surtout avec les Carolingiens, à Aix-la-Chapelle, comme microcosme du macrocosme romain ou byzantin. Donc la concurrence des villes qui va s'étendre jusqu'à...
Ça ne sera plus Alexandrie et Rome, mais
voilà,
ça sera...
Ça va continuer. Donc la machine ne s'arrête jamais de fournir des symboles.
Constantinople.
Oui, Constantinople.
Constantinople imaginaire. Tout le livre de Gilbert Dagon, justement, célèbre livre Constantinople imaginaire, qu'il faut lire et relire tellement c'est merveilleux. Oui. Justement, c'est le point de jonction, à mon avis, de tout ça. Oui. C'est-à-dire où on voit se jouer toute la scène de la littérature antique sur les statues, sur les faits épiques, et en même temps, déjà, le bric-à-brac des trésors médiévaux, en quelque sorte.
Et est-ce que le discours sur les styles, sur les genres, qui a été élaboré lentement et patiemment par... ce qui n'était pas des historiens d'art à l'époque, mais qui était déjà un discours sur l'art, en tous les cas, au premier siècle avant, premier siècle après, deuxième siècle après, en l'occurrence, Evelyne Priou, est-ce qu'on en est tributaire encore, ou est-ce que ça s'est transmis, ça aussi, en même temps que les œuvres? Est-ce que la hiérarchie des genres, la hiérarchie des styles, est-ce que tout ce qui était le classement, disons, orthodoxe, pourrait-on dire, de l'art romain, par exemple, a perduré au-delà des siècles, ou est-ce que ça a disparu et on le redécouvre aujourd'hui en faisant des études philologiques, par exemple, Evelyne Priou?
Alors, c'est une question vraiment complexe, mais déjà, moi je suis convaincue qu'il y a de l'histoire de l'art dans l'Antiquité
déjà,
grecque,
oui, il faut le dire.
Des figures d'historiens de l'art, et c'est souvent ignoré, malheureusement, donc au IIIe siècle avant, Xénocrate, Doris... Et évidemment, Leurs traités, on ne sait pas jusqu'à quand ils sont conservés, mais ils sont perdus assez tôt. Mais les Romains les ont lus et les utilisent notamment dans la théorie rhétorique. Et ils utilisent l'art grec comme exemple permettant d'illustrer leur pensée sur la rhétorique et de la rendre plus visuelle, simplement de la rendre plus accessible aux étudiants.
Et on sait que ça dure pendant une partie de l'Empire romain.
Ça dure longtemps. Et en fait, quand on va recommencer à faire de l'histoire de l'art à la Renaissance, évidemment, on lit les traités rhétoriques, donc qui, eux, sont des reflets lointains
des
traités d'histoire de l'art perdus grecs. Et comme on les lit, on va en tirer quand même la substantifique moelle et un certain nombre d'idées qui font qu'on a l'impression d'avoir un discours assez similaire.
Au-delà des siècles, en l'occurrence.
On retrouve des parallèles.
Voilà. Merci à tous les trois d'avoir tenté ce travail à longue enjambée, puisqu'on est parti avec Alain Schnapp de la Mésopotamie ancienne et de l'Égypte ancienne, et puis on est arrivé avec Yann Potin, en passant par vous, Evelyne Priou, jusqu'au Moyen-Âge et au dernier siècle du Moyen-Âge. Merci d'avoir tenté cette longue traversée de cette idée de collection. On voit bien, là, tout de même, Alain Schnapp, qui a là de quoi... réfléchir, c'était le thème, je crois, du Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau l'année dernière. Il y a de quoi vraiment travailler intensément.
Voilà, la collection ne s'épuise pas au fil du temps, mais elle est constamment recommencée. Simplement, ces agencements varient dans le temps et l'espace.
Et il faut travailler toutes disciplines confondues. Vous aimez la transdisciplinarité, vous-même, Alain Schnapp, il faut philosophe, historien d'art, historien, archéologue, tout le monde peut participer à ce travail-là.
Voilà, la collection, c'est une discipline, comme on disait au 19e siècle, polymatique.
Merci à vous, Alain Schnapp. Donc, on peut lire, entre autres, La conquête du passé. On attend avec impatience votre livre sur l'histoire universelle des ruines. Merci, Evelyne Priou. On peut lire de vous, ce sont des collectifs, Métamorphose du regard ancien. Qu'est-ce qu'on peut citer encore d'autres comme livre
Petit musée en verre.
Voilà, petit musée en verre, VERS, en l'occurrence. Et merci, Yann Potin, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Donc, on continuera à travailler sur cette question, d'autant que l'épave d'Anticythère et d'autres nous laissent encore entendre qu'il y a quelques possibilités de découvertes supplémentaires. Vous avez un petit mot, juste, il faut terminer, mais Amphipolis, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'on découvre tous les jours sur Amphipolis. Alain Schnapp, vous avez suivi un peu l'actualité?
Oui, un petit peu. Enfin, ça bouge. Nos collègues grecs sont très, très excités parce que plus on en avance, on est en train de...
On a trouvé une mosaïque.
Amphipolis est en train de fonctionner comme une machine, comme celle de la découverte de Toutankhamon, avec la couverture
médiatique,
c'est intéressant. Ça peut avoir, enfin, espérons que ça aura un effet aussi sur la protection du patrimoine en Grèce, qui a beaucoup souffert.
En particulier en Crète, j'ai cru comprendre.
Oui.
Merci à vous, Alain Schnapp. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet, à la technique Jean-Guy Limège, à la réalisation Françoise Camard. Et demain, vous êtes encore avec moi.
C'est
Régnier Tard. Et nous, ça sera un tout autre sujet, puisque c'est une table ronde fiction.
Quoi qu'on va parler d'une BD qui est Ulysse.
Voilà, on va parler d'une BD par Jean Arambat sur Ulysse. On aura un roman qui traite de l'époque des années 30, c'est cela ?
Voilà, des années 30, la montée du nazisme en Autriche.
Et puis, la dernière mise en scène de Bob Wilson au théâtre de l'Odéon à partir des Nègres de Jean Genet.